France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 22 mai. Félix Levacher est à la réalisation, Frédéric Kiefer et Swad Boukorsa à la technique. Soyez les bienvenus sur France Musique. J'espère que vous allez bien. Il fait un petit peu gris dehors, mais nous allons réchauffer votre cœur et vos oreilles avec un menu riche ce matin. À 7h45, la violoniste Lia Petrova partagera un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin célébrera la nature, un thème à l'origine de nombreux chefs-d'œuvre polyphoniques. À 8h15, notre reportage. Sophie Anastasio nous emmènera au Théâtre National de Chaillot, à Paris, avec le spectacle The Tree de la chorégraphe Caroline Carlson, véritable cri d'amour lancé à la nature. Voilà qui devrait parler à notre invitée du jour, la violoncelliste Ophélie Gaillard, qui elle aussi s'est inspirée de notre environnement pour son film « Et un arbre se mit à crier ». Enfin, 8h50, Christophe Chassol décortiquera la bande originale du film « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil » de Jean-Yann, bande originale signée Michel Magne. Très bon réveil. L'une des sept mélodies d'Ernest Chausson, le Colibri, hymne à la nature, signé également par le poète Lecomte de Lisle, hymne à la nature qui exprime en réalité la cruauté de l'amour. Ici, vous avez sans doute et peut-être reconnu cette voix splendide, élégante, toujours Véronique Gens, ici accompagnée par Suzanne Manoff. Véronique Gens, eh bien, puisque les salles sont ouvertes à nouveau, allez écouter le 26 mai prochain, ce sera à 19h au Théâtre du Capitole de Toulouse. Elle interprétera aux côtés de Suzanne Manoff justement des mélodies de Gounod, Duparc, Dubois ou encore Jacques Offenbach. C'est à ne pas manquer, c'est à 19h. On va poursuivre à 7h34 avec cet enregistrement sous le signe de la lumière. Il est paru au mois de janvier. Voici le troisième mouvement du septième concerto pour violon de Mozart. Troisième mouvement bouillonnant, plein de surprises, vous l'entendrez. On écoute Lia Petrova, le Symphonia Varsovia, et Jean-Jacques Kantorov à la direction.
Thank you.
Le final rondo de ce 7e concerto pour violon de Mozart interprété par la violoniste Lia Petrova accompagnée par le Symphonia Varsovia et Jean-Jacques Kantorov. Il est 7h45. Bonjour Lia Petrova.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. On est ravis de vous accueillir ce matin sur les ondes. Vous allez bien ?
Oui, très bien, merci. Je suis contente aussi d'être avec vous.
Tant mieux, c'est toujours mieux quand c'est partagé. On vous écoutait à l'instant ici dans ce final du 7e concerto de Mozart. On se le disait en l'écoutant avec mes collègues, on devrait tous se réveiller chaque jour avec de la musique comme celle-là. Le monde serait plus doux, ne croyez-vous pas ?
Oui, je suis absolument d'accord parce que, en fait, quand j'écoutais mon disque pour faire des remarques, avant qu'il soit sorti, je l'écoutais toujours le matin. Et surtout ce troisième mouvement, je trouvais que ça mettait toujours de tellement bonne humeur. Avec mon café à la fenêtre, j'ai adoré.
Voilà, on pourrait presque croire qu'il fait magnifique, que le soleil brille dehors. Lia, vous êtes née en Bulgarie. Comment avez-vous découvert la musique ? Qui vous emmenait au concert ?
En fait, il y avait des musiciens, évidemment, dans ma famille, ma mère et mon oncle. Mais ce qui est rigolo, c'est que surtout ma mère, elle était vraiment très contre l'idée que je devais être musicienne. Et du coup, j'ai appris un peu le violon en cachette. Je pense que j'étais fascinée par le violon particulièrement. J'avais très envie de jouer. Du coup, j'ai dû forcer presque mon oncle de me donner des cours en cachette. Puis, dans 6 mois, j'ai dit, bon, ben voilà, je vais être violoniste, je suis désolée. Du coup, ça a bien marché.
Voilà, c'est ça que j'allais dire. Vous y êtes bien arrivé. Hier, Emmanuel Macron donnait le coup d'envoi d'un pass culture de 300 euros pour tous les jeunes de 18 ans. Il peut être dépensé en billets de cinéma, de concerts, de spectacles, de musées, en biens culturels, en cours de disciplines artistiques, notamment en cours de violon, pourquoi pas. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est une super idée. Je ne sais pas comment, je suis désolée. C'est vrai, je suis en plein concert. Finalement, youhou, on peut le dire que
ça reprend.
Ça augmente, oui. Du coup, j'ai pas suivi, mais je trouve que c'est une idée du génie.
Et notamment donner la possibilité, aux plus jeunes d'entre nous de venir assister,
exactement,
par exemple, au festival Music Fest parisienne, qui aura lieu salle Courtauld. Ce sera du 25 au 29 mai. Music Fest parisienne 100% consacrée au répertoire chambriste de Johannes Brahms. Une deuxième édition pour ce festival. Enfin, on peut dire ça comme ça. La première a eu lieu oui, en plein confinement. Il a été imaginé, pendant le premier confinement. Et puis la première édition a eu lieu l'année dernière.
Exactement. En fait, l'idée est venue vers la fin du confinement. Je me suis dit, tiens, les salles vont être vides. On peut se réunir. On peut être à 5, à 6. On peut jouer ensemble. Il faut le faire. Du coup, on a vraiment monté le festival en 3 semaines. Et on voulait faire aussi... C'était la musique. Je pense que ça nous manquait énormément. Et ça a très bien marché. Il y a eu un vrai enthousiasme. Aussi de la part du public qui était derrière leurs écrans ou derrière vous, d'ailleurs.
À la radio.
Exactement, derrière la radio. Et on s'était dit qu'on avait vraiment très envie de le refaire. Et du coup, le successeur naturel, c'était Brahms. Le successeur naturel de Beethoven. Et aussi, c'est sûr que la musique de chambre est vraiment le sommet de son œuvre et l'accompagnait tout au long de sa vie. Du coup, on va faire des concerts un peu au miroir entre jeunesse et maturité.
Voilà, pour proposer l'entièreté de ce qu'il a été capable de faire, effectivement, jeune compositeur ou plus tard dans sa vie. 3 concerts, 3 soirées. Qui avez-vous invité ? Vous avez rassemblé une vingtaine de musiciens, Lia Petrova.
Oui, je voulais inviter des gens que j'admire, des gens avec qui j'ai bien joué. On est tous, on peut dire, la jeunesse. Il y a plein de musiciens extraordinaires. Il y a Aurélien Pascal qui sera là, Bruno Philippe qui sera là, François Salk, Lise de la Salle, Adam Lelum, Alexandre Kantorov, Eric Le Sage. J'oublie sûrement plein.
Alors, Pierre Fouchonneret, Nicolas Baldeyrou, Tanguy de Vihancourt, notamment.
Tout
des musiciens à aller bien sûr écouter la Musique Fest parisienne qui se tient donc Salle Courtauld. Ce sera les 25, 27 et 29 mai. Je vous donne le site tiens, pour aller déjà prendre vos places, chers auditeurs. lamusiquefestparisienne.com. Vous trouverez bien évidemment les liens sur la page de Musique Matin de cette émission sur francemusique.fr. Je tiens quand même à préciser que c'est un festival qui se tient en partenariat avec France Musique. Allez, Elia Petrova, vous nous faites découvrir votre choix musical ce matin.
Oui, mon choix musical fait partie de l'album, le nouvel album d'ailleurs, de Jean Rondeau, qui je trouve absolument incroyable, qui s'appelle Mele Holy Grace, et qui m'a beaucoup inspirée. Je trouve qu'il est aussi, il décrit bien, pour moi en tout cas, comment je me suis sentie souvent pendant ces derniers mois, sans musique et en silence. Du coup, j'espère que vous allez l'aimer aussi.
Merci beaucoup pour ce partage, Jean Rondeau, qui était d'ailleurs à votre place la semaine dernière dans cette émission, pour lui aussi partager un choix musical. Merci beaucoup, Lia Petrova. Et puis, écoutez, on se voit à votre festival.
Avec plaisir.
Merci à très bientôt, vous. Lia. Bonne journée. La toccata quarta, extrait de cette œuvre, Toccata et Partite d'Ita Volatura, Girolamo Frescobaldi, interprété ici par Jean Rondeau, un extrait de ce magnifique disque paru chez Erato il y a peu, Melancholy Grace, disque sorti en partenariat avec France Musique. Et nous parlions de festival il y a une poignée de minutes. France Musique sera bien présent à Nantes le week-end prochain pour la Folle Journée. Un festival tant attendu avec au programme pas moins de 14 concerts que nous ferons entendre sur les ondes, dont la moitié d'entre eux en direct. Bach et Mozart seront les compositeurs mis à l'honneur pour cette édition. 20 heures d'antenne donc sur France Musique, tenue dès vendredi matin par Jean-Baptiste Urbain, mais aussi par Gabriel Oliver Aguillon, Clément Rochefort, Priscille Lafitte, Judith Chaîne, Jérémy Rousseau et puis moi-même aussi pour le concert de clôture du festival qui sera également à suivre en direct sur Arte. Ce sera à 17h30. Alors pour fêter l'événement, je vous offre ce matin vos places pour le concert d'ouverture de la Folle Journée. Ce sera le 28 mai à 10h30 à l'auditorium. Au menu, l'ensemble Les Ombres, dirigé par Margot Blanchard et Sylvain Sartre. Et puis deux jeunes solistes, Théotime Langlois de Swart au violon baroque et Gabriel Pidou au hautbois. Ils joueront des concertos de Jean-Sébastien Bach, l'un des deux compositeurs donc mis à l'honneur. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin, vous cliquez sur Contactez-nous et vous nous laissez vos coordonnées et la bonne réponse à cette question. Quel est le deuxième compositeur mis à l'honneur pour cette édition? J'ai parlé de Bach, bien sûr, il y en a un autre. Est-ce Giuseppe Verdi, Le Grand Jojo ou bien Mozart? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Comment animer votre vie de famille sans écran? Avec l'appli Radio France, profitez d'une large sélection de podcasts spécialement conçus pour vos enfants. Des histoires pour rêver, de l'histoire pour apprendre, de la musique pour danser, des sciences pour comprendre et aussi de l'information pour tout savoir. L'appli Radio France, vivons le temps autrement. À télécharger gratuitement sur votre smartphone. France Musique.
France Musique.
Vous allez la do ré.
Vous allez l'adorer.
Excellent réveil à l'écoute de France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour mon cher Marc-Olivier.
Bonjour ma chère Saskia.
Vous êtes totalement en phase avec la thématique environnementale de la matinale du samedi, vous le savez Marc-Olivier. Nous partons dans la nature ce matin.
Et oui, avec un inépuisable répertoire choral, bien sûr Jeannequin pour commencer, avec Herbes et fleurs.
Du bonheur, ce thème de la nature en art n'est-il pas universel, Marc-Olivier ?
Oui, la beauté de la nature devient un sujet privilégié de l'art occidental dès la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance, au point d'envahir toutes les formes d'art, notamment la poésie, la peinture et la musique. Et depuis l'invention de l'écriture musicale, d'innombrables pièces vocales et chorales ont été composées sur ce thème, et beaucoup restent d'ailleurs méconnues. Ce matin, je me limiterai au seul monde végétal, point de vol du bourdon ou de merle noire, et du coq à l'âne, si j'ose dire, retrouvons Camille Saint-Saëns, dont on honore la mémoire cette année, et son très joli chœur intitulé « Les fleurs et les arbres ».
Mais ce thème de la nature n'est-il pas souvent associé au printemps ?
Oui, notamment l'éveil de la nature au printemps, souvent métaphorique de l'éveil amoureux. D'Edvard Grieg, une pièce pour chœur bien trop méconnue et pas si difficile pour des chœurs amateurs, Waren, le printemps dernier.
Mais Marc-Olivier, il arrive que les fleurs chantent elles aussi.
Oui, il y a Rameau pour faire ce tour de magie. Dans les sublimes Indes galantes, les fleurs chantent le tendre amour, une des plus belles œuvres musicales de l'art occidental.
Eh bien, nous allons l'écouter. Merci beaucoup Marc-Olivier pour cette chronique qu'on écoute sur francemusique.fr. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Belle journée à vous.
Merci.
Extrait des Indes galantes, interprété ici par les Arts florissants et les solistes du Jardin des Voix. C'était en 2013, dirigé par William Christie. Il est 8h05.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Marc-André Hamelin au piano ici, accompagné par les violons du roi, Bernard Labadie à la direction, Marc-André Hamelin au clavier, pour ce concerto en ré majeur au Bocken 18 numéro 11 de Joseph Haydn. Nous en écoutions le troisième mouvement. À 8h09, un petit mot sur ce concert du Quatuor Van Cuyck. Quatuor Van Cuyck, ce sera le 26 mai prochain à 19h au Théâtre des Bouffes du Nord. Il jouera deux quatuors de Félix Mendelssohn au programme d'un disque à venir d'ailleurs. Alors pour le plaisir de pousser à nouveau les portes d'une salle de concert, courez-y et allez écouter ce formidable quatuor français.
Thank you.
Le quatuor Van Kuyk ici, dans ce premier mouvement du 10e quatuor de Franz Schubert, extrait de ce disque paru il y a 2-3 ans, je dirais, chez Alpha. Quatuor Van Kuyk a surtout allé écouter en concert. Ce sera donc le 26 mai prochain à 19h au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Les pas des spectateurs résonnent à nouveau sur les marches du grand escalier de marbre du Théâtre National de Chaillot à Paris. Et c'est avec un cri d'amour lancé à la nature, le spectacle The Tree, ce qui veut dire l'arbre, spectacle de la chorégraphe Caroline Carlson, que le public a été accueilli mercredi 19 mai. C'est un reportage de Sophia Anastasio.
L'ambiance est particulière en ce mardi 18 mai au Théâtre National de Chaillot. Demain, ce sera le grand jour, le public sera de retour entre les murs, sur les fauteuils et dans les couloirs de l'institution. Une grande joie pour tout le monde, notamment son nouveau directeur, Rachid Ouramdan.
Oh, c'est un fort sentiment d'excitation. On est ravis de pouvoir à nouveau rencontrer le public, de pouvoir ressentir à nouveau les retours, les applaudissements, les commentaires, enfin se reconnecter avec cette vie-là. L'art qu'on propose a de sens qu'à partir du moment où il se confronte à la sensibilité des autres, il vient transformer, atteindre, agir sur les affects, les sensibilités, faire avancer les points de vue sur certains sujets. Donc ça n'a de sens que quand on est à cet endroit-là. Donc voilà, on est vraiment impatient de reprendre. C'est un élément de plus pour reprendre un cours de vie entre guillemets normal.
C'est avec une œuvre qui aborde le thème de l'écologie programmée par son ancien directeur Didier Deschamps que Chaillot célèbre sa réouverture. La pièce The Tree de Caroline Carlson, véritable déclaration d'amour à la nature. Ça s'appelle The Tree, l'arbre, et pour moi, c'est de la poésie. C'est aussi très écologique. Je veux dire qu'on y retrouve la glace qui fond, les arbres, le feu, l'eau. Il y a dans cette pièce les éléments qui sont importants dans la nature et dans ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui. Et je dois dire que je travaille également beaucoup avec mes danseurs. J'apporte de la poésie et des images, des dessins, et on crée l'œuvre tous ensemble. Sur scène, 9 danseurs et danseuses évoquent les 4 éléments avec différents tableaux. Ils sont inspirés en grande partie de la jeunesse de la chorégraphe.
J'ai grandi en Californie, en nageant dans l'océan Pacifique, en faisant du camping dans le parc national de Sequoia.
Mes parents sont finlandais, donc j'allais souvent en Finlande et ils avaient une résidence d'été en Californie. Et puis j'ai été étudiante à l'université de l'Utah, dans le désert et les montagnes, donc j'ai grandi dans la nature.
Mountains. So I grew up in nature.
Engagée depuis longtemps sur les questions écologiques, c'est aujourd'hui une Caroline Carlson inquiète qui tente d'interpeller poétiquement le public au travers de ses œuvres.
All the pieces I have done from the beginning, like Blue Lady.
Toutes les pièces que j'ai créées depuis le début, comme Blue Lady, mon célèbre solo avec son arbre immense, dans chaque pièce, il y a la nature. Parce qu'en vivant dans des villes, nous oublions que nous sommes la nature, que nous faisons partie de tout ce qui nous entoure, de la planète, et je suis très préoccupée. La Terre, Mère Nature, est au bord du gouffre. Donc, comment le dire ? Je n'aime pas le mot effrayé, je suis terrifiée. Lui aussi, artiste engagé, Rachid Ouramdan a pris ses fonctions le mois dernier à la tête de Chaillot. Et il souhaite y défendre un projet de théâtre des diversités. Les questions écologiques y auront toute leur place.
Vous savez, en tant que directeur de lieu, vous vous mettez à l'écoute de ce que produisent aussi les artistes, on les accompagne. Donc la question est, est-ce que les artistes vont dorénavant avoir plus d'attention sur ces sujets ? On le voit déjà. de différentes façons d'ailleurs, soit parce qu'ils en font le sujet de leur œuvre, soit parce qu'ils inventent des nouvelles formes aussi de rencontrer l'art chorégraphique dans d'autres modalités, pas toujours sur scène, dans d'autres formes d'environnement. Donc oui, je pense que c'est important et j'espère pouvoir amener ça à Chaillot. Oui.
Pendant tout le mois de mai, les spectacles sont gratuits à Chaillot, un cadeau de reprise pour que le théâtre soit accessible au plus grand nombre dès sa réouverture. Rachidou Ramdan souhaite que l'on aille au théâtre autrement pour le découvrir dans son entièreté, avec des performances de foule par exemple, des promenades, des pique-niques chorégraphiques, pour venir au théâtre comme on vient dans un parc.
Et quelle excellente initiative. Merci beaucoup Sophia Anastasio pour ce reportage. On vous retrouve la semaine prochaine. Rhapsodie hongroise numéro 11 de Franz Liszt, c'était Alexandre Kantorov qui était au piano, artiste à l'affiche du festival Musikfest parisienne dont nous parlions tout à l'heure. Musikfest parisienne qui se tiendra à la salle Cortot dans le 17e arrondissement à Paris, ce sera les 25, 27 et 29 mai. Toute la fougue de Marina Alsop ici à la tête de l'Orchestre symphonique de Sao Paulo, c'était l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein. Il est 8h32.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Comment la musique, qui est aussi essentielle pour beaucoup d'entre nous que l'acte de respirer, peut-elle se partager, voyager, s'épanouir partout dans le monde tout en respectant notre planète? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question d'Ophélie Gaillard ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. Vous êtes violoncelliste. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous parcourez la planète avec votre violoncelle depuis 30 ans bientôt. Vous vous emparez du sujet écologique qui est notre thématique de la matinale du samedi dans votre art avec ce film Un arbre se mit et un arbre se mit à crier. Nous allons en écouter quelques extraits dans un instant. Tout d'abord, comment vous est venue cette idée, Ophélie Gaillard?
En forêt, bien sûr.
Mais évidemment.
Et puis j'adore cette pièce de Dvorak, Waldesruh. Je la trouve magnifique, de douceur, de tendresse. Et en fait, elle m'est venue tout simplement dans les oreilles et dans le cœur en faisant des balades en forêt, en me disant comment un compositeur arrive à avoir cette sensibilité à être au monde et nous rendre sensibles. Cet émerveillement qu'on peut avoir quand on se balade en forêt et comment peut-on en arriver à un tel saccage par ailleurs. Et le violoncelle s'est retrouvé tout d'un coup de façon naturelle comme une sorte de vecteur entre à la fois c'est un arbre évidemment qui se souvient qu'il est arbre et en même temps qui est façonné par la main de l'homme et qui fait quand même quelques merveilles, en tout cas qui moi m'émerveille tous les jours, et en même temps cette main de l'homme qui peut complètement dévaster et détruire notre environnement.
Je vous propose eh bien d'en écouter tout de suite un premier extrait.
Il était une fois un arbre qui aimait tant les oiseaux qu'il devint violoncelle. Pourquoi, se demandait l'arbre, pourquoi ne puis-je pas chanter comme eux ? Il était une fois une belle dame qui promena ses doigts sur l'arbre devenu violoncelle. Et l'arbre se mit à chanter. Il se mit à chanter. Et pas seulement pour les arbres. Pour tous les êtres vivants de la forêt. Il devint la chanson de la forêt. Mieux, il devint le père et la mère de toutes les forêts du monde. Savez-vous que les forêts sont des sources, poumons des rivières? Des rivières qu'on ne voit pas plus que la musique, mais qui, comme elles, coulent dans le ciel pour apporter la pluie au désert.
Un extrait de ce court-métrage, devrais-je dire, 6 minutes, intitulé « Et un arbre se mit à crier », film d'Éric Delmotte avec ici le violoncelle de notre invité ce matin, Ophélie Gaillard, texte d'Éric Orsenna, lu par Charles Gonzalez. Pourquoi avoir choisi d'y mettre des mots sur cette musique de Dvorak que vous évoquiez à l'instant, Ophélie?
Ce sont les mots d'Éric Orsenna. C'est un amoureux de la nature, un grand curieux. D'ailleurs, vous avez remarqué que ça rend jeune de s'émerveiller et d'être curieux de tout. J'aime beaucoup ces êtres qui rajeunissent avec le temps. Comme c'est le cas
on le voit souvent aussi chez les musiciens.
Oui, absolument. Et c'est bon. Je pense qu'il a les mots pour à la fois pour être sensible à la musique et puis pour raconter cette histoire. C'est une histoire je pense qu'on peut encore écrire, qu'on peut encore la transformer, arrêter ce saccage bien sûr, et puis aussi écrire un nouveau chapitre. Quand on voit hier après-midi, j'étais à l'exposition de Salgado, qui est une merveille que je vous recommande parce que c'est vraiment
c'est à la Philharmonie de Paris.
Il faut voir ces photos.
Vraiment,
on les voit circuler. On connaît son film magnifique, Le sel de la terre, de Wim Wenders. Mais le fait de voir ces photos et de se retrouver avec d'autres êtres humains bipèdes dans une exposition et d'être ému aux larmes par des photos, c'est vraiment très beau. Et voilà, il est au plus près des populations aussi qui sont tellement diverses, tellement riches dans ce territoire complètement immense. Et quand on voit que certaines de ces tribus arrivent à renaître, c'était une catastrophe absolue dans les années 70-80 et qu'il n'y avait presque plus personne tellement ils étaient décimés par la maladie, l'alcool, etc. Et qu'en fait, ils arrivent à, grâce à leur culture, grâce à la dignité retrouvée, grâce aussi au combat, parce que c'est un vrai combat, de regagner, de faire valoir leur territoire, en fait, ils arrivent à revivre et à retrouver cet écosystème tellement passionnant de dialogue avec la forêt et de cohabitation finalement avec la forêt. Et je trouve que Salgado est un ambassadeur merveilleux pour nous faire découvrir ça.
Et puis un jour, une nuit, le feu est arrivé, non pas tombé de la foudre, mais allumé par des hommes sans foi ni loi, des amoureux de dollars, des meurtriers de forêt. Alors les doigts sur le violoncelle ont joué, nuit et jour, sans repos ni relâche, pour qu'enfle et enfle la rivière céleste et qu'elle éteigne l'incendie.
Le feu qui arrive, allumé par des hommes sans foi ni loi. Vous évoquez ici, par le biais des mots d'Éric Orsenna, évidemment, Félix Gaillard, une musique quoi, réparatrice ?
Je pense que c'est une arme de construction massive, la musique. Ça nous permet de nous rassembler. Ça permet aussi, dans un moment où on est très ébranlé, tous autant qu'on est, et rendu très vulnérable par la crise sanitaire d'une part, et la crise écologique d'autre part, qui sont d'ailleurs très liées, ça nous rend sensibles. Et c'est par cette capacité à être ému, à être fragile aussi, je pense, et à se poser des questions. Qu'on peut grandir, qu'on peut faire évoluer les choses et qu'on peut combattre, parce que c'est vrai que c'est aussi un combat qu'on doit chacun, je pense, mener, mais pas sous une forme punitive. J'aime bien l'idée que la musique nous rassemble et qu'elle fait tomber les défenses de la plupart des gens. C'est d'ailleurs ce dont je me rends compte aussi quand je fais des ateliers, que ce soit en milieu scolaire, en milieu carcéral. En fait, on se rend compte qu'avec la musique, sans les mots même, on arrive à toucher au cœur, on arrive à faire tomber les défenses de même d'un malabar qui se met à pleurer devant vous dans une cellule. Et c'est une grande force de la musique de nous rendre attentifs aussi à cette vulnérabilité. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut construire les choses, beaucoup plus que par les « il faut », les « yaka » qui sont légion en ce moment, et les gens qui ont réponse à tout et qui assènent des vérités. Bien sûr, les vérités scientifiques sont très importantes, mais elles sont diverses, elles sont aussi controversées, et cette recherche scientifique à laquelle il faut être très attentif et aussi en plein questionnement. De même que nous, en tant qu'artistes, sommes en questionnement poétique. Voilà, comme disait d'ailleurs Karine Carson dans ce projet-là.
Absolument, dans ce reportage qu'on écoutait un petit peu plus tôt, reportage de Sophie Anastasio, qui utilisait même ces mots, Karine Carson interpellait poétiquement le public pour en quelque sorte le faire réagir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur le pouvoir de la musique sans les mots. Cela dit, ici, vous avez choisi de créer ce film, d'utiliser l'image. Il y a des images violentes, parfois, d'Éric Delmotte, images de destruction d'engins de chantier, de troncs empilés par centaines les uns sur les autres. On est aussi à l'opposé de ce que vous évoquiez au tout début de cette interview, l'image de l'artisan, du luthier qui sculpte l'instrument que vous jouez. Il y a ce contraste également.
Oui, mais je crois que tous les moyens, j'allais pas dire il faut faire feu tout bois, ce serait quand même un peu paradoxal, mais tous les moyens sont bons, les moyens poétiques, la musique, la voix de Charles Gonzalez aussi qui nous mène dans ce, qui nous conduit, qui nous prend la main. sur ce chemin et qui, je ne sais pas si on peut réparer, mais en tout cas on peut tenter de reconstruire. Et les mots peuvent être utiles aussi, parce que la musique, on sait aussi qu'elle peut accompagner la pire des barbaries dans les camps de la mort. Et la musique, c'est un moyen, pour moi, c'est un vecteur. On est des passeurs de cette musique, mais aussi on est passeurs de cette humanité. Et le fait qu'on soit humain est rarement plus évident et perceptible que quand l'art surgit dans nos vies. Et c'est pour ça, je crois, qu'il faut que l'art soit un bien essentiel et vraiment nécessaire à chacun d'entre nous. Sinon, on perd une partie de nous-mêmes et on finira par se perdre. Hier, j'écoutais Hubert Reeves dire sur France Culture, finalement, est-ce qu'on va réussir à survivre à notre puissance, à notre surpuissance, à notre violence ? C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de la survie de la Terre, de notre humanité aussi. Bon, tant pis pour nous si on disparaît a priori, hein. Mais
il restera toujours nos enfants.
Voilà, exactement. Et puis c'est vrai que la question de nos enfants est devenue peut-être plus urgente pour moi et a fait de ces questions a donné un caractère beaucoup plus brûlant,
beaucoup plus présent dans votre vie. Justement, quelle place pour ces questions dans votre vie d'artiste, Ophélie Gaillard? Vous êtes quoi, une ambassadrice, une passeuse? Vous avez changé votre manière de travailler, peut-être de voyager?
Oui, bah vous savez, c'est plein de petites choses qui finalement mises ensemble collectivement dans nos vies personnelles. Alors en tant qu'artiste, moi je suis très proche d'Arviva par exemple, qui est
une association,
un collectif d'artistes qui réfléchissent avec des choses très concrètes, hein. On se donne des bonnes adresses d'hôtels, comment est-ce qu'on peut faire pour changer l'économie d'une tournée, comment est-ce qu'on peut convaincre des organisateurs de concerts qu'on peut pas à la fois voyager de façon raisonnée et en même temps demander des exclusivités à des artistes, ce qui est complètement obsolète.
Voilà, de ne pas pouvoir jouer plus d'une date au même endroit dans un temps prédéfini.
Alors il faut réfléchir ensemble, parce que bien sûr chacun a ses impératifs économiques, artistiques, etc. Mais en fait on peut trouver des solutions. Je sais pas, cet été par exemple, avec l'ensemble Pulcinella, on a plusieurs concerts en Haute-Savoie, dans diverses vallées, il y en a beaucoup, avec des publics qui se regroupent pas forcément. On réfléchit avec les organisateurs à des programmes intelligemment agencés, différents. On réfléchit à amener des nouveaux publics à ces concerts à travers la médiation qui est plurielle. On réfléchit aussi à moi je suis très sensible de par mon activité pédagogique au fait de mettre le pied à l'étrier à des jeunes professionnels qui sont encore beaucoup plus malmenés que nous par cette crise. Et y a plein de solutions, et il y a plein d'envies, il y a plein de désirs. Mais chacun doit baisser un peu sa garde aussi et repenser sa manière, y compris de faire son métier quand on est programmateur, quand on est musicien, quand on est pédagogue.
Et quand on fait partie du public aussi, je pense que ceux qui nous écoutent et qui se demandent toujours peut-être en écoutant cette émission de se dire qu'est-ce que nous on peut faire, c'est vrai que le public a sa part à jouer dans cette transformation.
Absolument, c'est même... d'abord il faut le diversifier aussi. Donc moi je fais aussi beaucoup de choses par rapport à des seniors, par rapport à des jeunes. Et l'idée c'est aussi que chacun prenne conscience de façon... poétique, scientifique, des urgences. Et de cette façon-là, on va avancer.
Mais absolument. Et vous continuerez à le faire avec votre ensemble Pulcinella, hein, avec qui vous menez de nombreuses actions depuis 15 ans déjà. On va se quitter, Ophélie Gaillard. Merci beaucoup d'être venue partager ce film, d'être venue en parler avec nous ce matin. Je rappelle son titre, Et un arbre se mit à crier. Vous le trouverez sur YouTube, film de Éric Delmotte, avec un texte d'Éric Orsena, lu par Charles Gonzalez. Vous trouverez évidemment le lien sur la page de Musique Matin sur francemusique.fr. On se quitte avec un extrait inédit de votre dernier disque en date dont vous étiez venu parler à Jean-Baptiste Urbain. C'était le 31 mars dernier, nouveau disque Cell'Opéra, paru début mars chez Aparté. Allez, on l'écoute, mais j'aimerais quand même que vous nous en disiez un tout petit mot rapidement, Ophélie Gaillard, ce qu'on va entendre.
C'est un pas de côté par rapport à cet enregistrement qui est essentiellement très romantique et dédié à l'opéra. Et là, c'est un air d'opéra des années 30 de Moïse Simons. Qui, je crois, va vous donner envie de danser et mettre encore un peu plus de soleil dans vos cœurs.
Merci Ophélie Gaillard. C'est moi, c'est ça la vie, c'est ça l'amour. Moïse Simons ici avec Ophélie Gaillard, Florent Jodelet aux percussions, le Morphing Chamber Orchestra, Frédéric Chasselin à la direction. Extrait donc de ce disque paru début mars chez Aparté, Cell'Opéra d'Ophélie Gaillard.
Chère auditrice, chère auditeur, chère auditrice, chère auditeur.
Et c'est évidemment l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Eh bien bonjour Saskia.
Vous allez bien?
Je me porte à merveille.
Moi j'adore le titre du film, et le film aussi d'ailleurs, dont vous allez décortiquer la bande originale. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Jean-Yann, 1972. Parlez-nous de Michel Magne.
C'est parti, on va écouter un petit peu quand même.
Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus.
Là, on va avoir un petit Notre Père.
Notre Père qui est aux cieux.
Je pense qu'on va revisiter l'habillage de cette matinale et aller repiquer quelques trucs chez
Radio
Plus.
Pas si bien dire, vous connaissez le sujet du film?
Absolument, voilà. Mais rappelez-le nous pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas.
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc film de Jean-Yann en 72 et donc musique de Michel Magne, le fantastique Michel Magne. Et c'est une satire, une comédie satire du monde de la radio. Voilà, avec un Jean-Yann un peu assez idéaliste, journaliste génial qui se fait mettre la pression par sa direction, la direction qui veut tout axer sur Jésus-Christ parce que ça plaît aux gens, quoi. Et donc voilà, c'est une critique du capitalisme, de la publicité, et du monde de la radio, des journalistes qui font pas vraiment leur taf aussi.
Voilà. Vous me regardez comme
Mais je vous regarde parce que je vous parle pas. Pourquoi vous vous sentez visé?
Absolument pas.
Bon, voilà, moi j'adore. Bon, Michel Magne il est génial et je vous en parle parce qu'il y a une BD géniale qui est sortie. Qui s'appelle Les Amants d'Hérouville.
Magnifique.
Ouais, superbe, de Yann Lequelec et Romain Ronzo.
Je peux la feuilleter?
Tenez, tenez. C'est la vie de Michel Magne, super bien dessinée et racontée avec des mix, ça mixe dessin et photos, vraies photos. C'est super, vraiment, ça parle de l'aventure du château d'Hérouville. Vous savez, ce château génial où Michel Magne a fondé un studio et où Elton John,
les plus grands sont venus enregistrer.
T-Rex, Bowie, Magma, qui d'autres, enfin plein de gens, voilà. Et le Grateful Dead, voilà, et Pink Floyd. Et le Grateful Dead, ce groupe a fait un concert mythique là-bas où il y avait, où les flics, les villageois, des Rouville, prenaient du LSD, sautaient dans la piscine et voilà, toute la grande communion, intersectionnelle.
Donc, Michel Magne.
Ouais, il est génial. Bon, voilà, moi, je me suis hyper identifié, la BD et, enfin, identifié. Je veux dire, tout compositeur, se régale de lire ça, en fait, parce que c'est quelqu'un qui avait de l'ambition, qui était fantasque, qui était, un peu fou, quoi, qui était assez génial. Une vie géniale d'expérimentation, de musique de film. Vraiment une carrière très très pleine, plus grosse que la vie, bigger than life comme on dit. Que vous dire sur lui? Il est plus ou moins autodidacte, né en 1930, très doué au piano, à l'orgue. Et pendant la guerre, il faisait des musiques en accrochant des casseroles au queue des chats, par exemple.
Tout simplement.
Voilà. Je vous dis un petit peu de façon très rapide, il a étudié avec Messiaen. Voilà, c'est un compositeur d'avant-garde qui a par exemple fait Salgavo en 52. Il a fait un concert d'infrason qui a donné la colique à tout le monde, mais il bloquait les entrées pour que les gens n'aillent pas aux toilettes. Donc voilà, scandale. Il était peintre aussi, que vous dire. Et plein de musique de films, donc Fantomas, OSS, Les Angéliques, Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes, Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol, et j'en passe, ça c'est les années 60. Et dans les 70, il continue aussi, en même temps que le Château d'Hérouville. Et il y a, moi, cette musique. Donc, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. J'ai découvert ça, j'avais 15 ans. J'ai entendu ça à la radio. Et ça m'a happé tout de suite. Il y avait les bons accords, les bons changements d'accords, tout ce que... Enfin, c'est une comédie, c'est satirique. Et là, ma question, c'est... Est-ce que cette musique est pas trop belle pour être satirique? Alors, on va écouter le morceau, Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, chanté par Jean-Yann.
Les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris.
Quand ça gueule du sac,
lorsque partout l'on entend
le bruit des matraques sur les crânes intelligents.
Ça, mirez
dans la douceur de la nuit. Le ciel m'offre son abri et je pense à Jésus-Christ,
celui qui a dit. Tout le monde, il est gentil.
Non. Moi je trouve ça fantastique, la mélodie, les accords, c'est hyper émouvant. Je trouve ça hyper émouvant. Et j'adore la voix de Jean-Yann dessus. Bon bref, je vais vous jouer les accords là de ce couplet pour que vous saisissiez ce qui me renverse. C'est parti. Et c'est cette transition. Mi ré de do. En pensant à Jésus-Christ, celui qui a dit. Et puis tout le monde est beau. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'ai besoin de montrer ça, l'intérieur des accords. Ok, on va écouter le couplet 3 avec ses paroles géniales et écouter un peu les chœurs, les arrangements de chœurs d'ailleurs qui font des octaves. On va écouter.
Quand ça jordanise, quand le pauvre fédayen copie par bêtise la prose à Monsieur Jourdain, quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix et se désaltère avec un demi-diaphré,
mirédo,
dans la fraîcheur de la nuit.
J'adore ce morceau.
Vous entendez les cœurs? Attendri, en pensant à Jésus-Christ, celui qui a.
Et juste un dernier extrait, ça va être le sixième, s'il te plaît, Félix, parce qu'on est en retard. On va écouter la suite et encore une fois, une grille de jazz qui et des cadences de musique classique. C'est l'extrait d'après, pardon. L'extrait d'après, merci. Ah non.
Monte Jésus.
C'est un autre morceau, c'est pas là.
On essaie quand même de trouver le bon extrait.
Ah, j'aimerais bien, ouais. C'est le 6, la coda. Voilà.
Voilà.
Écoutez-moi ces arrangements de cuivre, ces accords, parfait, quoi.
Allez voir ce film, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Je sais pas, il est un peu vieilli, hein.
Ah oui, évidemment, c'est 72.
mais surtout aller écouter la bande originale de Michel Magne avec eh bien, des explications de Christophe Chassol dans l'oreille.
À réécouter sur francemusique.fr.